Chers amis, Hashem Alechem Tihyu, le Orechem Yitovim Shalim Nehemim, pour surmonter l'étude de Parashat Pinhas. Ezrinu Beshem Adonai, Osei, Shamaim, Vaaret. Donc le début de la Parasha est lié à la fin de Parashat Balak. Donc Balak, n'ayant pas pu maudire Israël, donc il donne un bon conseil, que Bilam n'a pas pu maudire, n'est pas parvenu à maudire Am Israël. Alors, il donne un bon conseil à Balak. Donc, il lui dit de faire fauter Am Israël avec les filles de Moab. Alors, c'est ce qu'il est dit à la fin de la paracha. Voyez, chez Israël, Bachitim. Israël s'est installé dans Chittim. Pourquoi ce lieu-là s'appelle Chittim? Chazal nous dit parce que Nichnessa Ba'em Ruach Shtut. En Adam Hoté, la Gemara dit dans ce temps, en Adam Hoté Elaim Ken Nichnessa Bo Ruach Shtut. Donc c'est un esprit de folie qui a pénétré les individus. Donc ils ont été entraînés. Il manquait de rationalité dans leur action. Vayahel Aam, donc du fait que Nichnas Baem Ruach Shtut, Vayahel Aam Liznot El Benot Moab. Donc ils ont commencé à fauter, à pécher avec les filles de Moab, comme cela est raconté dans le Midrash. Elles ont séduit, les Bnei Israël et les ont entraînés à faire non seulement znout, donc dépravation des mœurs, des relations interdites, mais aussi à Avodah Zara en leur demandant de se prosterner à Baal Peor. Et ce qu'il est dit dans le pasuk, va tikrena la'am les ifre Elohim, va yocha la'am, va ishtahavu l'Elohim, va yitzamed Israël et Baal Peor. Donc Baal Peor, c'est le concept de Baal Peor, nous dit Chazal, que il n'y a, tout est permis. L'homme peut se permettre tous les écarts, il n'y a rien, il n'y a aucune limite à ce qu'un homme est capable de faire pour donner libre cours à ses passions, à ses envies, à ses désirs et à ses fantasmes. Et c'est ça le pire. Donc ce n'est pas une faute, un dérapage, c'est le fait de s'accaparer ou d'adhérer à cette idéologie qu'il n'y a plus aucune limite. Voyons Merachem et Moshe. Donc Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de condamner à mort ceux qui ont fauté. Et il est dit après que voyons même Moshe el shofte Israël irgu ish anashav nisvadim le Baal Peor. Mais il est ish ehad nimne Israël, il intervient Kozvi ish ehad nimne Israël, vayakrev elehav et amidyani ben Moshe ou l'année kol adat ben Israël, vehem abochim petach ou el moed. Donc ce personnage là, on va essayer de voir qui c'est. Zimri ben Salou, qui est-il? Donc il a approché cette femme, la fille de Kozvi Bartzour, et il a interpellé Moshe pour savoir si elle était permise, est-ce qu'il pouvait avoir un rapport avec elle. Donc il a été au-delà de l'interdiction de Moshe. Et après survient Pinhas, Vayar Pinhas ben Elazar ben Araouna Kohen, Vayar Komitoch Haïda, Vayar Romar Biado. Pinhas a vu cela, donc lui il a fait ça en public dans une tente devant tout le monde, et Pinhas est intervenu. Donc, c'est à ce propos qu'il dit Kola Boal Aramid Befarasia, Kanaim Pogimbo. Donc c'est Pinhas qui a agi, et Pinhas il a pris des risques. Donc il y a beaucoup dans les Chazal, beaucoup de questions comment il a pu se prendre ce droit et agir de la sorte. Donc il a été, disons, inspiré. Alors c'est ce qu'il est dit dans la paracha de la semaine. Vaydaber Hashem Moshe el mor Pinhas ben Elazar ben Aaron Akohen Heshiv et Hamati ma'al ben Israël Bekano et Kinati betocham Velo Kiniti et ben Israël Bekinati. Donc quelqu'un je vois au s'est enflammé, la colère, le courroux divin s'est enflammé contre ben Israël pour une telle action. Donc ça aurait pu aller très loin. Donc la colère divine aurait pu s'abattre de manière incontrôlée. Et Pinhas a réussi à apaiser la colère divine. Et c'est pour ça, donc, qu'est-ce qu'il est dit? Lachen emor ineni noten lo et beriti shalom. Voilà, je vais lui accorder mon alliance éternelle, beriti shalom. Donc, quel est le sens de shalom? Dans les Mefarshim, il est dit que tout homme a un conflit. L'homme est construit, fait la nature humaine est qu'il y a une greffe entre le spirituel et l'âme et le corps. Donc, il y a un conflit continuel entre les désirs du corps et les désirs de l'âme. Et ce conflit, il s'agit de donner, l'Avodat Hashem nous indique qu'il s'agit de donner la gouvernance de notre corps entre les mains de notre âme. Ce que l'âme veut, et on ne sait pas toujours ce que l'âme veut, et faire en sorte de limiter les désirs et les besoins du corps. De telle sorte d'être dans la Kedusha. Et lui, Pinhas, il va obtenir cela. Il va obtenir que... Donc, Razanodis Pinhas ou Eliaou, donc il va vivre longtemps, très longtemps, jusqu'à devenir Eliaou Navi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un apaisement. Il n'y aura plus de conflit entre les deux. C'est ça le shalom. Le shalom, le désir du corps et les... Et les désirs de l'âme arrivent à se conjuguer et à s'accorder. Donc le corps accorde à l'âme, comme si que le corps, la matérialité, se limite et accepte la domination et la conduite de la spiritualité. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus... Et c'est de cette manière-là qu'on verra dans le Navi que Eliyahu HaNavi va monter « Bis'ara HaShamayim ». Et après, il a dit, Vaitalo, Uzaro Ahara, Berit Keunot Alam. Donc, c'est à ce moment-là que Pinhas va devenir Kohen. Donc, alors, on nous dit le pasuk, Veshem, Ish Israel Amuke, Asher Uka et Amidani, Zimri Ben Salou, Nessi Bet Av Lashemoni. Donc, le personnage dont il s'agit ici, c'est Kozvi Ben, on l'appelle Zimri Ben Salou. C'est Nessi Bet Av la Shimoni. Donc, il est un des princes de la maison de Shimon. La Gemara nous dit dans Maseret Sanhedrin, à son propos, Ita, Amar Rabbi Yohanan, Hamisha Shemot Yeshlo. Ce monsieur a cinq noms. Zimri Ben Salou, Shaul Ben Akenaanit, Shelumiel Ben Tsuri Shaddai. Zimri, Al Shena Asa Kebetsa Amuzeret. Donc, il a un peu pourri, Zimri. Mouzeret, ça veut dire elle n'a pas donné son fruit. Elle n'est pas parvenue à donner à maturité. Ben Salou, Ashi Isli Avonot Al Mishpardo. Donc, il a porté une tâche sur sa famille. Shaoul, c'est quoi Shaoul? Ashi Ishil Asmo Lidva Avera. Il s'est adonné. Il s'est accordé la Avera. Il s'est prêté à la Avera. Ben Akenaanit, Achena Sama Asikenaan, il a fait une action qui ne sied pas à Israël. Oma Shemo, et comment s'appelle-t-il en réalité? Shelumiel Ben Tsuri Shaddai Shemo. Donc c'est Nassi de Shimon. Donc de Pashtut de Divrei Agmara, la Gmara Mashma. Que Zimri aya Shaul ben Akenaanit, lui-même, chez Nimna, alors ce Shaul ben Akenaanit, il est compté dans les enfants de Shimon. Et Rachid dit, au nom du Midrash, c'est le fils de Dina, chez Nimna la Kenaanit. Donc il est dit, quand Yaakov Avinu, il est revenu, et il a quitté la vanne, il est arrivé à Shrem, et là il y a marqué, Vatetse Dina Batea, et Shrem ben Hamor l'a prise. Et il a abusé d'elle. Donc elle était enceinte. Et quand Shimon et Lévi ont vengé cet acte d'Ibn Shrem, donc ils ont tué les 22 000 personnes, Dina a refusé de sortir, de venir avec eux, jusqu'à ce que Shimon lui promette de se marier avec elle. Et tout ceci est indiqué dans Parashat Va'era, dans Parashat Vaïgash et dans Parashat Vaïra, dans le Targum Yonatan, c'est mentionné. Donc Zimri, c'est Shaul ben Akenani, c'est le fils de Dina, qui est, elle, elle est appelée Kenani, Jinivaïla le Kenani. Donc ça, c'est marqué dans... donc il en ressort, en fait, que Zimri, il a pratiquement, dans les Farshim, il est mentionné, donc il est meilleur des Mitzrayim. Il est descendu, donc c'est resté, ils sont restés 210 ans en Égypte. Et ici, nous sommes à la 40e année du désert. Donc, il a au moins 250 ans. Et marqué dans le frame, entre peut-être 252 ans, 253 ans. On ne sait pas exactement. Mais c'est de cet ordre-là, l'âge de Zimri. Alors maintenant, il s'agit de comprendre comment et on en est à... On est parvenu à une telle faute qu'un personnage de cette dimension puisse agir de la sorte. Mais les Farshim, avant cela, les Farshim s'interrogent. Ils disent, on a un problème avec son âge. S'il a 252 ans, alors il faisait partie, voilà que... Il faisait partie des tribus, de ceux qui se sont rebellés. Est-ce qu'il faisait partie de ceux qui se sont rebellés avec Korach? Donc, ils sont morts. Ils devraient être morts. Et sinon, voilà que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, la génération de la sortie d'Égypte, alors aussi, a péri, a disparu dans le désert. Donc, comment ce bonhomme-là, il est passé au travers de la Gezera qu'il y a eu à la suite des Meraglim. Alors sur ça, il y a des Mfarshim qui expliquent qu'il est fort possible que Zimri n'a pas participé à la rébellion contre Moshe. Fort possible. Donc il a pu survivre, il n'était pas concerné. Et d'autres disent que, au sujet de la deuxième question, que la Xéra était entre 20 et 60 ans. Ceux qui avaient entre 20 et 60 ans, mais ceux qui avaient plus que 60 ans, en l'occurrence, lui, il avait 200 et quelques années, 210 ans, 220 ans, donc il n'était pas concerné. Donc il a pu survivre, il a pu passer tout cela et passer outre. Donc alors maintenant, la question qui se pose fondamentale, c'est quoi l'idée de cette action? Comment on en est arrivé là? Dans le Rama Mipano, le Hari lui-même dit dans Mamaré Rajbi, il explique que c'est pas juste un bonhomme qui a voulu prendre une femme et donner libre cours à ses passions. C'est quelque chose de bien plus profond et bien plus subtil dans l'interrogation qu'il a. À l'encontre de Moshe, est-ce que cette femme-là, est-ce que celle-là est autorisée ou pas? Et sinon, qui t'a autorisé, toi, la fille de Yitro, etc. Cette discussion-là, elle remonte à la source de sa nature, de quelles sont les sources. Il contient en lui le fait d'avoir son père biologique et Shrem. Donc il est dans Hivin, c'est la partie négative qu'il contient en lui, qui était elle aussi, qui a impacté Dina. Et Dina qui symbolise quelque part un peu la rigueur, elle a été entachée du fait que... qu'elle a été abusée par le Kenani. Donc tout ça a un ta'alir, un ma'alar, c'est un processus de purification. Et on va voir plus tard, dans le Rama Mipano, qui va nous dire que en fait, il y a un lien fondamental entre les 22 000 qui vont décéder là, à part par l'action de Zimri, par, en fin de compte de cette histoire-là, il y aura 22 000 qui vont mourir. C'est les 22 000 qui sont morts, qui ont été tués par Shimon et Lévi à Shrem. Et c'est aussi le personnage. Qui est ce personnage de Zimri? Alors, les Farshim disent, le Rambam Ippano dans Gilgul Neshamot, dans plusieurs endroits, il mentionne que c'est Rabbi Akiva. Donc ce personnage-là, qui est le descendant biologique de Dina, le fils de Dina, descendant biologique de ce Kenaani, etc., est lié, va donner beaucoup plus tard le personnage de Rabbi Akiva. Et cette femme, Cosby Batour, qui est-elle? Alors, on dit le Rama Mipano, c'est la femme de Tournos Ropus Racha. Comme c'est mentionné dans la Gemara, dans les Nedarim, que Isabelle, que le Rama Mipano dit que Isabelle, la femme de Achav, elle est le tikkun, elle va être Nitkenet par la femme de Tournos Ropus Racha, le Rhin, dans Nedarim Noun, en haut de la page, Noun Amoudbet, ramène ce midrash, qu'elle est venue, que Rabbi Akiva et Tournos Ropus étaient en conflit permanent philosophique. Et Tournos Ropus essayait de le faire fauter, d'arriver à le battre d'un point de vue idéologique et philosophique, et il ne parvenait pas. Et quand il rentre à la maison, il voit, sa femme le voit, qu'il était contrarié. Alors elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte que Rabbi Akiva a à nouveau pris le dessus dans la discussion, dans la confrontation philosophique. Alors elle lui dit, laisse-moi, je vais aller le séduire, je vais le faire fauter. Et l'OM chez les loups, son ésima. Et c'est grâce à ça, si je parviens à le faire, à le séduire, et à le faire fauter, alors tu le vaincras dans la discussion. Et c'est exactement le conseil que donne Balak, Bilam à Balak. Il lui dit, Elohim Shelel Usonezima. Donc si Elohim Shelel Usonezima, comment tu peux arriver à les toucher grâce à ça? Donc s'il faut, tu pourras parvenir à les vaincre. Donc c'est exactement la même idée qui est mentionnée. Et là, elle vient, le séduit, etc. Mais Rabbi Akiva ne bouge pas, il sourit, etc. Comme il est marqué dans le Midrash. Et les élèves lui disent, après qu'elle abandonne, il sourit. Il dit, quelle est l'idée qui est mentionnée dans... Rabbi Akiva savait, a vu, qu'elle allait faire tshuva. C'est grâce à ça, cette femme-là était destinée à Rabbi Akiva. Alors, il y a deux manières pour Rabbi Akiva de la prendre. Ou bien il la prend Béissour, ou il la prend Béhéter. Donc, s'il arrive à se contenir et à maintenir et à ne pas fauter, alors ce travail-là de garder la lacha va produire chez elle une remise en question. Et elle va se convertir. Et en fin de compte, elle s'est convertie. Chachamim nous disent que une des raisons pour lesquelles Rabbi Akiva était riche, c'est parce que cette femme-là lui a laissé un grand héritage. Et c'est exactement la même idée qui est mentionnée ici dans la paracha. Si Zimri ben Salou, cette femme-là lui était destinée. Mais il fallait la prendre Béhéter. Donc il aurait dû dominer être patient en fait. Il aurait dû être patient, attendre le moment propice pour obtenir le tikkun final qui était celui qu'il devait obtenir. Mais il s'est empressé, il a voulu accélérer les choses. Et en allant au-delà de la parole de Moshe. C'est ça qui a causé la catastrophe. S'il s'était retenu, s'il avait été observant de la halakha et qu'il s'était dit que la finalité ne justifie pas les moyens, à ce moment-là, il se serait produit la shmira de la halakha, créer une réalité et se serait produit exactement la tchouva, cette femme se serait venue, se serait convertie, elle aurait pu sans aucun problème se marier avec lui Et à ce moment-là, tout aurait été réparé du premier coup. Elle, lui, il s'est empressé, il a accéléré, il a cru pouvoir, il a vu qu'elle lui revenait, entre guillemets, de droit, et il a transgressé. C'est l'erreur qu'il a commise. Et dans ce parallèle-là, nous pouvons comparer Korach et Pinchas. Korach, il s'est empressé, comme nous l'avons dit déjà, que Korach était destiné à une fonction éminente très, très, très élevée. Mais il a considéré qu'il a été mis de côté, donc il n'a pas été considéré, on ne lui a pas donné ce qui lui revenait. Donc il a accéléré pour obtenir, il a voulu obtenir par la force ce qui ne lui revenait pas. Donc il a été pressé. Pinhas, il est le petit-fils d'Aaron, mais seulement il n'a pas été oint. Il était déjà né, il n'a pas été oint. Donc, mais lui, il est resté dans son coin. Il a attendu son heure. Il a été patient. Il a été patient de telle sorte que Akadosh Baruch Hu ne laisse personne sur le côté de sur le quai. Donc, il a été patient et il a attendu le moment propice où la providence lui ouvre la voie pour aller obtenir ce qui lui revenait de droit. Donc, il y a ici une attitude d'empressement qui mène à la faute. Il y a une attitude de patience et d'attente en gardant parfaitement les règles de la halakha, de telle sorte que l'observance, le fait d'observer, de ne pas se laisser aller à la passion sans réfléchir, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va croire, on va penser et on va se donner des justificatifs pour dire que la finalité justifie les moyens. L'alakha, comme si l'alakha n'avait pas lieu d'être respecté quand il y a une finalité noble, entre guillemets, ou éminente. Et ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur de Zimri et c'est l'erreur de Korach. Et l'exemple type, c'est le tikkun qu'a produit Rabbi Akiva, comme le rapporte le Ran dans le Nedarim, et l'attitude de Pinhas, qui a su être patient. Et ça, c'est une ma'ala atsuma, la patience, savoir attendre son heure, attendre sa... Comme dit Rama Mipano, il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure, il n'y a pas un objet qui n'a pas sa place, etc. Donc, Akadosh Baruch Hu ne laisse personne de côté. Il faut être au niveau de la fonction qu'on espère obtenir et savoir que on ne peut l'obtenir que si toutes les conditions spirituelles sont établies, qu'on arrive à garder. On ne peut pas obtenir quelque chose d'éminent et de kadosh en employant des moyens qui sont à l'opposé de la Kedusha. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.